Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Lecause, avec qui nous allons parler ressources humaines à l'heure de la digitalisation des entreprises et de l'arrivée des nouvelles générations. Mathilde Lecause est directrice du recrutement, du développement des talents, de l'innovation RH et de la marque employeur au sein du cabinet Mazars. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Mathilde, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as réussi à avoir un intitulé de poste aussi long dans un cabinet aussi sérieux, rassure-moi, et que l'on fabriquait sur mesure?
Déjà, voilà, l'intitulé de poste, il change tout le temps, selon si je dois faire court ou long. Mais en fait, normalement, c'est directrice des talents. Mais c'est vrai que souvent, on voit pas forcément tout ce que ça concerne ou tout ce que ça embarque derrière. Donc, cette version-là permet d'expliciter, effectivement. En fait, je vais m'occuper vraiment de tout ce qui touche nos clients. Moi, j'aime bien parler de clients en RH ou prospects, donc nos candidats, nos collaborateurs. Et donc, ce soit dès l'amont en termes de communication, mais aussi pendant le processus de candidature et de recrutement et puis toute leur vie au sein de notre cabinet. Donc, c'est extrêmement large.
Les talents, c'est le nouveau mot à la mode là pour dire les collaborateurs ?
Je ne sais pas si c'est à la mode. C'est vrai que nous, on l'a toujours utilisé comme ça. En tout cas, j'aime. C'est pas forcément le terme élitiste qu'on souhaite partager derrière la notion de talent. C'est le sujet, c'est de dire que je pense que tout le monde a des talents. Tout le monde est forcément un talent. On a tous quelque chose à partager, à apporter et à contribuer. Et donc, j'aime bien cette notion de dire qu'on a tous des talents.
Ah ouais, mais c'est bien, hein, c'est une vision positive, souriante, avenante. Si je taquine un peu, je me dis, on n'a pas envie de vexer là, les nouvelles générations, celles qui sont arrivées ou qui arrivent sur le marché. On va trouver des mots pour les caresser un peu dans le sens du poil, leur donner envie de nous rejoindre, nous, les organisations.
Je sais pas si c'est ça. En tous les cas, je pense qu'il y a quand même un changement de mindset. C'est de prendre conscience que les gens, les collaborateurs, sont pas des ressources. Ça reste des personnes singulières qui viennent avec tout ce qui fait leur personnalité. Et je trouve ça intéressant de remettre cette notion humaine vraiment sur cette appellation-là. Plutôt que ressources, hein, même ressources humaines. Je trouve que c'est pas toujours très positif. Et en tous les cas, c'est vrai que chez Mazars, on aime penser, et en tout cas, on œuvre comme ça au quotidien, c'est de dire que chacun apporte quelque chose, et c'est pas des ressources interchangeables. On vient chacun avec son histoire, sa personnalité, ses envies, ses appétences, et on doit être capable de les accueillir, en fait, si on veut pouvoir collectivement créer quelque chose de positif. Donc, je pense que c'est surtout une façon d'accueillir la singularité de chacun.
C'est très, très contemporain hein, comme discours, ça. Si je lis entre les lignes, est-ce que tu nous dis que le rapport de force a un peu changé entre ces dernières années, enfin, au cours de ces dernières années, entre l'employeur et la ressource?
Alors moi, dans mon quotidien, je le vois. Après, c'est un vaste débat. Faut-il en parler? Parce que moi, peut-être que ça dépend aussi des industries, des marchés. Moi, c'est vrai que chez Mazars, on recrute majoritairement des gens très diplômés. Donc, est-ce qu'ils sont pas plus difficiles ou en tout cas plus exigeants? Peut-être. Ce que je conçois par contre aujourd'hui, c'est que les gens recherchent un projet, une équipe. Enfin, je trouve que, et ça c'est très sain, on vient re-questionner le travail sur la notion même de contribution individuelle au sein d'un collectif. Et donc, je pense que les gens ont envie qu'on les considère au-delà de leur diplôme, mais pour les individus qu'ils sont. Je dirais peut-être que c'est pour leur faire plaisir, mais je pense que c'est un nouveau rapport qui est beaucoup plus sain. En tout cas, moi, j'y crois énormément, en fait, dans ma façon de voir les ressources humaines. Je suis pas du tout RH de formation, en fait. Hein. Je viens du métier. J'étais une auditrice financière. Et quand j'ai voulu me réorienter dans les RH, c'était parce qu'en fait, j'aimais m'occuper des gens, en fait. Et moi, la notion que je vois derrière, la mission que je vois derrière les ressources humaines, c'est de prendre soin des gens. Et donc, ça me paraît normal de faire attention aussi aux mots qu'on utilise quand on s'adresse à eux.
Quels sont les secteurs qui sont le plus en tension en matière d'attractivité?
Je dirais que j'ai l'impression, pour moi, aucun secteur aujourd'hui n'est épargné. Déjà, on va avoir des secteurs qui sont moins en cote de popularité. Si je prends les filières très industrielles, artisanales, bâtiments, agriculture, on voit quand même, je trouve, aujourd'hui, beaucoup d'orientations qui vont se faire plus naturellement vers le secteur du service. Donc ça, c'est, je pense que, voilà, c'est peut-être aussi par rapport à la société qui change, hein, bien évidemment. Après, on a des secteurs d'émergents qui émergent, ou en tout cas qui sont très attractifs, le digital, la tech, tout ce qui va être le autour de, du retail aussi, du e-commerce. Et pour autant, ils sont pas épargnés parce que ça nécessite parfois des profils qui peuvent sembler pénuriques. Et je pense que ça s'explique aussi par la mondialisation aujourd'hui du marché du travail. C'est qu'en fait aujourd'hui, on est en concurrence quand on est employeur, bien évidemment avec les acteurs de son industrie, mais aussi avec aujourd'hui tous les acteurs qui emploient aujourd'hui des jeunes, et puis à l'international aussi. On sait, hein, nos étudiants français, eh ben, ils sont très, très recherchés à l'étranger. Et donc aujourd'hui, de fait, il y a une tension parce qu'en fait, on est beaucoup plus à se disputer peut-être ces talents à l'embauche. Et en tout cas, il y a beaucoup plus d'acteurs auxquels on doit faire face et auprès desquels on doit se différencier si on veut donner envie de nous rejoindre.
On entend énormément parler des jeunes générations, de leur quête de sens, de leur besoin de liberté. Je rigolais un petit peu là-dessus en intro, mais qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, toi qui les pratiques, ces jeunes générations, ces nouvelles générations, qu'on en parle tant?
Ouais, alors bon, on en parle tant, mais c'est quelque chose d'assez cyclique. On a toujours parlé, hein, des jeunes générations en opposition aux aînés. C'est pas quelque chose de nouveau, déjà.
Non. Ça, on l'observe, d'accord. Toi, ouais. qui as une vue, c'était une des questions que je me posais. C'est est-ce que c'est là contextuel? C'est en ce moment, pour des raisons que tu allais.
Non, là on parle de la génération Z, mais il y a 7 ans c'est la génération Y, et certainement quand les X sont arrivés en entreprise, ils ont déjà chamboulé leurs aînés. Je pense que ça a toujours été comme ça. Et puis une génération, elle ne naît pas différente, mais une génération est le fruit d'une époque. Et ça, je trouve que c'est très important, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon expertise, c'est que faut juste apprendre à peut-être à recontextualiser, comprendre aussi notre histoire, les mouvements de notre société. Et en fait, on comprend beaucoup mieux pourquoi une génération peut-être va avoir un type de comportement typique. Mais ça n'est pas quelque chose, voilà, qui est conscientisé dès la naissance. Si je prends la nouvelle génération aujourd'hui, qu'est-ce qui lui permet de se démarquer? Bah déjà, si je prends la génération Z, elle est née avec le digital. Et en fait, c'est pas tant cette nouvelle génération qui bouleverse. Déjà, c'est la révolution numérique qui nous a tous bouleversés et qui a transformé aujourd'hui notre société. Mais c'est juste que ces jeunes qui sont nés avec le numérique ont du coup connu toute leur première partie de vie dans un certain monde. Et donc, ils vont venir questionner l'organisation en tant que telle. Mais en fait, quelque part, ils ne sont que le miroir d'une société. Et en fait, ce qui crispe aujourd'hui, pour moi, c'est pas tant la nouvelle génération, c'est qu'elle pointe peut-être du doigt le fait que les organisations ne se sont pas réinventées aussi vite que le monde est en train de se réinventer. Et ça, je le constate, ça peut se décliner de plein de façons différentes, sur la culture managériale, sur la façon dont sont organisés le travail ou les organisations. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui qui découlent de la révolution post-industrielle et plutôt de modèles plutôt tayloristes. Et en fait, c'est vrai que le numérique a complètement chamboulé notre façon de consommer, de se comporter, d'échanger. Et en fait, est-ce que les organisations ont réussi à prendre le tournant de cette révolution-là? Je suis pas certaine, en tout cas pas dans son intégralité. On parle beaucoup de digitalisation. Ok, ça c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on a les nouveaux outils qui parlent avec l'époque qu'on est en train de vivre? Mais en fait, derrière les outils, c'est aussi les façons de fonctionner, les comportements, les façons de penser. Le numérique a vraiment chamboulé plein de choses dans notre expérience consommateur. Et en fait, moi, j'aime beaucoup faire de comparaison entre l'expérience collaborateur et l'expérience candidat collaborateur. Et il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver et du coup, voilà, qui vont venir peut-être crisper parce que ces jeunes, ben voilà, ils ont connu un monde, on va dire, pendant 18, 20 ans, 24 ans, et ils arrivent en entreprise. Et comment ça, les outils ne sont pas aussi modernes que dans sa vie privée? Comment ça, aujourd'hui, la façon de fonctionner donnée ne reflète pas les nouveaux schémas, on va dire, de partage et de communication. Et d'ailleurs, tous les chamboulements qu'on voit en entreprise, on peut les retrouver aussi dans la cité, avec ce qui se passe en politique, dans la vie citoyenne. Donc en fait, ce n'est que le miroir d'une époque pour moi.
Pour nous illustrer une réussite, est-ce que tu aurais un exemple en tête d'entreprise qui aurait réussi sa révolution managériale et ou l'utilisation d'outils numériques dans le cadre du management? On ne parle pas pour son business, mais vraiment dans le cadre de son organisation, son management. Donc, française, hein, idéalement.
Oui, j'ai... Ouais, bien sûr. Bah, moi, il y a quand même une entreprise que j'aime beaucoup regarder. C'est par exemple Decathlon. En tout cas, là, je trouve le projet d'entreprise qu'ils proposent aujourd'hui à leurs collaborateurs ou à leurs candidats, je trouve, est totalement d'actualité. On parle beaucoup de quête de sens, de résonance entre ses aspirations, la raison d'être de l'entreprise, etc. Et ça, c'est pas quelque chose propre à la nouvelle génération. Aujourd'hui, on a tous envie de sens, d'être aligné avec une raison d'être, etc. Je trouve que Decathlon, ils sont assez bons là-dessus. En tout cas, j'aime beaucoup les écouter sur leur manière d'embarquer et de motiver leurs équipes autour de quelque chose qu'ils partagent tous, c'est l'amour du sport. Et on voit que dans leur façon de manager, de communiquer, c'est ce qui les anime au quotidien, au-delà des profils, des diplômes, des process, etc. Donc, j'ai cet exemple en tête. Il y en a bien d'autres. Alors, souvent, on va citer aussi des startups ou en tout cas peut-être des organisations moins matures qui, du coup, en se créant, ont pu adopter tous les codes de la société dans laquelle on vit en ce moment. Donc, c'est pas forcément qu'ils sont toujours plus précurseurs. Je pense qu'ils sont plus agiles, en fait, pour pouvoir se transformer ou en tout cas adopter ces codes. Et c'est vrai que, et je le constate, c'est difficile quand on est une organisation beaucoup plus mature avec des centaines, voire des milliers de collaborateurs, d'entamer cette transformation. Elle est en cours, ça je le constate, mais il y a une inertie de fait lorsqu'on veut transformer une grosse organisation, parce qu'on doit accompagner les changements, la conduite du changement, les comportements, et puis dans ces organisations-là, on peut avoir vraiment de l'intergénérationnel et toutes les générations doivent se retrouver dans cette transformation-là, et c'est pas évident. C'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est pour ça que souvent, un certain nombre d'entreprises sont décriées et je trouve un peu à tort, c'est un peu un procès d'attention, c'est sans connaître tous ces mécanismes qui sont en cours de mouvement, mais qui parfois, voilà, les résultats ne sont pas encore immédiatement perceptibles parce que c'est long en fait, c'est long d'enclencher cette transformation.
Et on imagine que là, on enregistre là en février 2021, ça va faire bientôt un an qu'on traverse une pandémie mondiale avec la crise Covid, ça a dû accélérer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ce que ça a pu accélérer dans les pratiques dans les entreprises?
Alors, tellement de choses. Alors, bon, moi, c'est vrai que je suis une éternelle optimiste. Donc, j'essaye de voir déjà les points positifs. Bon, faut en voir quand même, hein, ça aide. Je minimise pas la difficulté actuelle, mais en tous les cas, en termes de transformation et sous tous les aspects qu'on aborde là, ça a été un facteur d'accélération. Et pour moi, il était temps, enfin. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et il y aura un après. Et bien sûr, on pense au télétravail, à l'utilisation massive des outils digitaux et numériques pour collaborer à distance, qui sont des nouvelles formes aujourd'hui qu'on doit intégrer dans notre façon de travailler. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement bénéfique. Après, ça montre quand même en lumière que je reste convaincue que pour beaucoup, le travail, c'est d'abord un facteur de sociabilisation. Et cette sociabilisation, elle a été vraiment très bouleversée. Et c'est d'ailleurs ce dont souffrent le plus aujourd'hui les collaborateurs, que ce soit chez nous ou dans l'ensemble des organisations. C'est ce manque de relations sociales, ce manque de proximité physique. Hein, parce que oui, on a des Teams, on se voit. Mais ça n'a rien à voir avec ces échanges informels, ce lien qui se crée lorsqu'on vit ensemble, quand on passe du temps physiquement ensemble. Et donc, ça remet bien au centre du projet de chaque organisation que c'est d'abord un projet humain. Et donc, on revient à des fondamentaux que peut-être on avait oubliés et que cette crise nous rappelle, en fait. Donc, ça, c'est en ça où je la trouve assez bénéfique. sur cet aspect-là. Après, j'entends beaucoup aussi, si je reviens sur le sujet qu'on vient d'évoquer sur cette tension, en tout cas ce rapport de force qui est inversé, j'entends certains parfois qui seraient tentés de dire « Ah bah enfin, une bonne petite crise, pardon, et puis le rapport de force va revenir un peu à la normale, c'est quand même aux employeurs de décider. » Je suis pas convaincue. Quand je vois des études, et là je sais qu'il y a une étude menée par le cabinet, je crois que c'est Empreinte Humaine, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, dont des résultats ont été publiés dans un article du Monde là très récemment, qui montre que presque 50% des salariés aujourd'hui se disent la crise leur fait prendre conscience qu'ils vont devoir changer de job. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire, oulala, le marché du travail est un peu tendu, donc tout le monde va bien rester au chaud. Non, parce que je pense que ça a mis encore plus en exergue que parfois on ne voit pas de sens dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que le travail qu'on mène n'a pas de sens en soi, mais je pense que la façon, encore une fois, dont on organise le travail, dont notre culture managériale existe, enfin est faite, dans la façon dont on crée des process, ben on fait perdre aux gens parfois le sens de leur contribution, et donc cette crise là elle l'a mis encore plus en exergue. Donc moi je serais tentée de dire attention, ce rapport de force ne va pas changer. Ce rapport de force, il vient questionner sur, mais en fait, pourquoi on veut travailler, pourquoi on veut rejoindre telle organisation, et c'est, oui, il y a le salaire bien évidemment qui est important, mais aujourd'hui on aspire tous à réussir notre vie. Et c'est pas que notre vie professionnelle. Je pense que réussir sa vie, c'est un tout. La dimension professionnelle est importante. On le sait, quand on est malheureux au travail, ben on a des grandes chances d'être malheureux tout court. Et quand on est heureux au travail, ça veut pas dire par définition qu'on est heureux tout court. Donc, mais c'est un axe très important, je pense, du bien-être, tout simplement parce que je pense que le travail contribue à l'estime de soi. C'est-à-dire que chaque être humain a besoin de se sentir utile, et le travail peut permettre justement de développer cette estime de soi. Encore faut-il que l'organisation, en ait conscience et qu'elle soit pensée pour distiller ces messages-là. Donc là, on va venir toucher la culture managériale, la façon dont on autonomise et on responsabilise les équipes, la façon dont on va leur permettre de trouver du sens dans leur quotidien, le fait de pouvoir leur permettre de contribuer à quelque chose peut-être qui dépasse uniquement leur fiche de poste et qui permet de contribuer à quelque chose de plus collectif. Tout ça, je trouve ça tellement positif, parce que je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus important, que enfin, heureusement qu'on aborde enfin ces sujets-là dans l'organisation. Et si la crise nous permet de le mettre sur la table, eh bien, tant mieux.
Et est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont particulièrement bien réussi à créer cette dynamique-là, malgré la distance, malgré la fatigue morale des équipes, après 9 mois à télétravailler, à être dans une distance physique? Est-ce que tu as des exemples concrets?
Il y en a, et en fait, là, de devoir les citer, c'est toujours, je sèche, je vais me dire, oh là là, je vais en oublier, etc. Donc, honnêtement, honnêtement, je serais même pas.
Un seul.
J'ose espérer que, c'est moi qui le dis, je vais pas dire un hasard, en plus, ce serait utopique, je peux pas parler, il y a que les collaborateurs. En fait, il y a tellement que les collaborateurs qui peuvent se prononcer là-dessus, que, en fait, je suis un peu embêtée, parce que je trouve que, si je devais donner un nom, c'est mon prisme par rapport à ce que j'ai entendu. Mais est-ce qu'en fait, je peux parler pour le nom des collaborateurs? Pour moi, il y a qu'eux qui peuvent se prononcer, parce que c'est la façon dont ils perçoivent. Ce qui est sûr, il y en a plein. Et je pense que celles qui ont réussi, c'est celles qui avaient déjà pris conscience que le plus important dans leur organisation, c'est peut-être de prendre soin de leurs collaborateurs. Je dis pas que c'est propre aux petites organisations. Je pense que c'est vrai que quand on est une plus petite organisation, en tous les cas, on est plus facilement en proximité. Les dirigeants sont plus facilement en proximité avec l'ensemble de leurs collaborateurs. Et en tous les cas, ceux qui étaient convaincus ont réussi à mener, bien évidemment, cette crise. Et il y en a plein. Après, les tips, je dirais, ou en tout cas les façons de faire, en fait, c'était, je pense, voilà, c'est il n'y a pas de recette magique, si ce n'est de la sincérité, en fait. Alors, ça fait un peu psychologie ou discussion de comptoir, peut-être, mais en fait, combien de fois on utilise les mots bienveillance, solidarité, confiance, à tort, parce que, en fait, ça, pour pouvoir mettre ça en œuvre au quotidien, je trouve que ça demande tellement de lucidité sur chacun ses failles et ses forces. En fait, c'est pas en disant qu'on sait tout faire, qu'on est les meilleurs, qu'en fait on est capable d'adresser une telle crise, parce que elle nous a tellement, on est tous tout petits par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que je suis convaincue, les organisations qui ont mieux réussi à traverser ça, c'est ceux qui ont été peut-être les plus humbles par rapport à ça, et les plus sincères dans les actions qu'ils menaient, notamment en privilégiant d'abord le bien-être et la sécurité psychologique de leurs équipes. Et ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup de marque employeur, etc. Et en fait, la vérité des prix, elle se joue un peu aujourd'hui, en fait. Parce que la façon dont vont se comporter les organisations vis-à-vis de leurs équipes en crise, eh ben, c'est la vraie réalité, en fait. Comment elle réagit? Est-ce qu'elle, voilà, elle pense que business, que sécurité? Est-ce qu'elle préserve l'emploi ou au contraire allège? Enfin, et en fait, c'est tous ces petits comportements qui vont faire que les grandes valeurs qu'on dresse, eh ben, est-ce qu'elles sont réellement là lorsque c'est difficile? Par exemple, est-ce que, voilà, on a sécuriser les stagiaires, on a continué à recruter des stagiaires, est-ce qu'on a maintenu les périodes d'essai, est-ce que justement on n'a pas fait, voilà, on a préservé au maximum l'emploi de ces équipes, voilà, ça c'était les vrais sujets, je pense, de la crise en tant qu'organisation.
Alors, tu en as parlé tout à l'heure, le travail à distance, le télétravail, selon toi, qu'est-ce qui va rester et comment on doit l'adapter après la crise? Parce que on voit bien qu'il y a du bon, t'as pointé du doigt les limites, il y a aussi plein de côtés positifs. Qu'est-ce qui va rester selon toi après?
En fait, pour moi, tout est question d'équilibre. En fait, avant, on était trop dans le présentéisme. On avait quand même du mal à y aller sur le télétravail. C'est vrai que chez Mazars, nous l'avions enclenché depuis un certain nombre d'années, mais ça restait quand même pas une quelque chose d'extrêmement courant. Aujourd'hui, on est dans l'extrême inverse. D'ailleurs, on est en train de dégoûter tout le monde du télétravail. Donc, moi, je suis convaincue qu'à la sortie de crise, quand même, on va avoir un petit temps de retour à la normale. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont dire « Ouais, le télétravail, pendant quelques mois, j'arrête quand même. » Pour revenir à un équilibre. Moi, je crois beaucoup aux équilibres. Et demain, ça sera de l'hybride, c'est tout. C'est-à-dire que le télétravail sera un non-sujet. Mais on a bien repris conscience que il y a un minimum à passer ensemble quand même pour faire corps, pour faire projet d'entreprise, pour développer ce sentiment d'appartenance. Donc moi je crois vraiment à un modèle assez équilibré, peut-être autour du 50-50 ou 40-60, qui permet voilà de permettre à chacun d'être autonome dans sa propre organisation. Moi je crois pas à des schémas déjà directifs et pour tout le monde le même, parce que chacun peut avoir des différences dans ses propres habitudes de travail. Il y a des gens qui adorent le télétravail, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Donc, ça nous demande juste d'être beaucoup plus flexible. Et là, on va venir toucher des vrais sujets de confiance, en fait. C'est-à-dire, laissons les gens se responsabiliser, prendre leurs propres décisions par rapport à l'organisation. Mais peut-être que ça explicite aussi une nouvelle posture managérielle, parce que OK, qui dit faire confiance, mais par contre, néanmoins, est-ce qu'on a bien expliqué le projet d'entreprise? Est-ce qu'on a donné le cadre? Est-ce qu'on pilote au résultat ou au process? Est-ce que, voilà, on donne de la vision, on embarque? Donc, ça va mettre encore plus en lumière cette nécessité d'être un bon manager, parce que ce qui est sûr, c'est que manager des équipes hybrides, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en distanciel, c'est plus difficile. Et moi, ça m'a venu beaucoup me questionner sur le rôle du manager, parce que, alors ça, c'est très personnel, mais moi, je constate qu'aujourd'hui, le manager, c'est davantage un process organisationnel qu'un rôle. Pourquoi un process organisationnel? Parce que c'est souvent une place dans une hiérarchie, c'est un système de rattachement. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que combien de fois j'entends « Ouh là là, ça prend du temps de faire du management ». Bah oui, ça prend du temps, en fait. Et ça devrait être même un job à part entière de faire du management. Si on veut faire bien du management, ça prend énormément de temps pendant lequel on ne produit pas quelque chose, en tout cas individuellement. Et en fait, ça met en lumière quand même que pendant très longtemps, et c'est pour ça que pour moi, on était sur un modèle très post-industriel, c'est-à-dire que le manager, c'était un échelon, mais chacun avait sa production qui étaient délégués, qui étaient répartis. Mais aujourd'hui, un manager, c'est un animateur de communauté, c'est un développeur de compétences. Voilà, c'est quelqu'un qui va créer du lien, qui va créer cette capacité à donner de l'envie à travailler ensemble. Et c'est pas produire lui-même ses propres tâches. Donc, si on veut que ça marche, il faut aussi quand même revoir ce qu'est ce rôle du manager et donner du temps au manager pour le faire. Et là, j'appelle tout le monde en disant les fiches de poste de manager où en fait on ne leur donne pas de temps à faire du management, ça ne peut pas fonctionner.
J'espère que tout le monde t'entend. Mathilde, un grand merci pour cet échange.
Avec plaisir.
L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel serait le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui veulent transmettre ces valeurs-là à leurs équipes ?
Alors déjà, moi, je suis tellement convaincue de ça. C'est, en tout cas, c'est le sens que j'y vois dans mon métier. Si je peux faire en sorte déjà que les collaborateurs chez Mazar peuvent être mieux, bah en fait, c'est une façon de contribuer à des hommes et des femmes plus heureux dans leur vie. En tout cas, je me dis que c'est quand même une belle mission. Et le conseil que je donne aux entrepreneurs, bah c'est que si déjà chacun fait à son échelle, c'est-à-dire que pas besoin de partir dans des schémas, de dire je veux changer le monde. Si déjà chacun individuellement prend ses responsabilités et au bord de son entreprise se dit je fais le taf, c'est-à-dire que je suis vraiment sincère et exemplaire dans cet exercice-là, voilà, j'aurais contribué. Et encore une fois, personne ne peut avoir la responsabilité de tout changer. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais on a tous, voilà, une responsabilité individuelle et on peut tous faire notre part. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Après, des tips très particuliers. Moi, je crois beaucoup, et c'est pour ça, hein, quand je parle de talent, au ressort individuel. Je pense que un dirigeant, un entrepreneur, juste un lâcher prise en fait. Le lâcher prise d'accepter qu'en fait, il peut y avoir des belles surprises, des talents cachés, non exploités, enfin, j'aime pas le terme exploité, on va dire peut-être non mis en avant de la part de ses équipes, et ça demande à lâcher prise. Parce que souvent, quand on est dirigeant, on est manager, on est entrepreneur, on se dit que c'est nous qui devons tout porter. On a du mal à assumer cette part peut-être de vulnérabilité qui fait notre humanité. Moi, j'y crois énormément, au lâcher prise, au fait de dire en fait, tout seul, je n'y arriverai pas. C'est avec les autres. Et donc, je les accueille. Enfin, je les écoute, je les entends et je les accueille et je les laisse en fait quelque part aussi. Je me laisse guider par ces talents-là. Ça, c'est dur, mais ça, j'y crois énormément.
Merci, merci beaucoup, Mathilde. Je te dis à très bientôt.
À très bientôt, merci.